Vous allez entendre un entretien réalisé avec Michel David le 29 octobre 2021 à propos de son livre « Tombeau de Jacques Lacan » édité chez Penta. Alors dans cet audio qui a été retravaillé, vous pourrez entendre des passages de l'ouvrage de Michel David lu par Guy-Joël Olivier qui viendront ponctuer certains moments de l'enregistrement. Michel David nous raconte cette rencontre avec Jacques Lacan, les effets que cela a produits dans sa vie et son rapport à la psychanalyse.
Ce qui était unique lorsque vous étiez en analyse avec Jacques Lacan, c'est que vous étiez certain d'être écouté de manière singulière, et comme vous ne l'auriez jamais été ailleurs. C'est ainsi que le très jeune homme qui tint à le rencontrer en 1975, alors qu'il n'était à peu près rien et qu'il venait également d'à peu près nulle part, fut simplement reçu par Lacan pour une analyse qui devait les mener jusqu'en 1981. Le premier passa enfin vers la vie, alors que le second s'en retirait.
Bon, oui. Alors, j'ai préparé quelques questions.
Ouais, oui.
Alors déjà, une première question qui m'est venue, c'était, je me demandais pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire maintenant ce livre-là.
Même quand j'étais très jeune, puisque j'ai commencé mon analyse, j'avais 19 ans, assez vite, je ne sais pas exactement pourquoi ni comment, mais assez vite, j'ai commencé à prendre quelques notes éparses, des mots. Et c'est vrai que sur les années qu'ont duré mes deux analyses, j'ai 4 pages de notes en fait en tout. C'est pas beaucoup, mais c'est tout. Et j'ai toujours eu le sentiment, l'impression, l'intuition, qu'un jour j'écrirai là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que l'analyse a été pour moi une des premières rencontres avec ce que j'appelle l'intelligence, presque au sens platonicien du terme, mais aussi analytique du terme, où on se reconnecte à soi-même, à sa pensée, à celle d'un autre, pour ne pas dire au désir d'un autre. Donc il se pourrait que jusqu'à cette époque-là, je l'avais éprouvé plutôt sur le mode de la déception, de l'absence, ou pire, pour un terme de Lacan. Donc effectivement, les mini-écritures éparses comme ça, les pattes de mouche, les mots, les quelques signifiants, quelques mots, se sont accumulés au fil des ans et des décennies. Et je m'étais toujours, non pas juré, mais promis, j'ai toujours eu cette idée d'écrire effectivement sur cette analyse précoce qui m'a vu naître ou renaître à la langue, à ma parole en tout cas.
Ouais.
Hein? Et voilà, la dette symbolique, si vous voulez, peut-être un peu, quelque chose de cet ordre-là. J'aime bien ce terme-là, ce terme de dette symbolique. Et puis, et ça s'est fait comme ça. Je suis sorti de la pratique de la psychanalyse en 2018.
Oui.
Au moment où j'ai pris ma retraite, tout simplement, j'ai tout arrêté. 40 ans de pratique, ça me suffisait, c'était bon. Et j'ai commencé à mettre ça en forme, voilà, tout simplement.
Il écrit comme ça lui vient, pardonnez-lui. C'est comme un cri plus fort que lui jaillit d'un intérieur inconcevable qui l'extirpe et qui l'envoie coucher entre ses lignes noires sur fond blanc. Un cri plus fort que les cris, que les mots et même que les mois considérables qui le saisit, qu'il lui est nécessaire et même vital de retranscrire, maintenant toute affaire cessante.
Ça m'est venu avec ce style-là, si vous voulez. Mmh. Peut-être ce brin de lyrisme-là.
Ouais.
C'est ce qu'a dit Jacques à la mineur du livre, au bord du lyrisme. Hein. Parce que Jacques Miller l'a lu.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez vu son commentaire.
Ouais.
Et donc, il parle du lyrisme. Et c'est un terme que je retiens bien, je ne sais pas, fait exprès. Donc, le cri, l'écrit, effectivement, c'est facile d'établir l'homophonie et puis le voilà. Mais effectivement, oui, le cri, mais c'est le cri de la naissance,
oui,
dont
oui,
il est un peu fait question, enfin, il est un peu question. Et puis le cri, les cris de la douleur ou des douleurs, ou des absences, enfin de tout ce qui n'allait pas, et qui ont pu enfin se convertir en paroles, et ensuite en écrit. Parce qu'en fait, le rapport à l'écrit, je l'ai eu aussi l'année de mes 19 ans, le premier rapport à l'écrit. Hein. Et donc, t'as mettre quelque chose qui n'a jamais été publié. Et donc, ensuite, j'ai attendu, parce que la vie est arrivée, les enfants sont arrivés, l'installation est arrivée, et je me suis remis un peu plus tard, un petit peu avant l'âge de 30 ans, mais en fait, j'ai continué d'écrire toujours.
D'accord.
Voilà, c'est l'écrit, ou l'écrit muet à la Munch, enfin Munch,
oui,
comment
oui,
on prononce,
oui.
Est devenu de l'écrit, effectivement, oui.
Je relisais là comment à la fin vous reprenez un moment une phrase de Lacan, on finit toujours par devenir un personnage de sa propre histoire.
Oui.
Et je me demandais si le choix de cette fiction, d'écrire à la troisième personne, qu'est-ce qui fait que finalement vous n'avez pas choisi d'écrire à la première personne.
Ah bah, alors là, d'abord ça m'est venu comme ça.
Oui.
Quand on est Duras. Elle le dit d'ailleurs. Pardon, des fois je reviens à Duras.
Oui,
c'est
vrai que
Duras et Lacan, pour moi, c'est les deux grandes rencontres littéraires, intellectuelles et éthiques de ma vie, artistique, entre autres. Mais enfin, quand même, elle dit le jeu a 10 fois plus de force que le il. Mais elle peut dire ça dans L'Amant, par exemple, en 84, parce qu'elle est Duras. Si elle avait été Duras non connue quand elle s'est mise à écrire en 1943, elle aurait mis jeu, ça n'aurait pas été. Elle est venue par le biais d'une héroïne, donc avec le il ou le elle en l'occurrence. Donc effectivement, c'est pas du tout pareil selon votre notoriété, que vous êtes un auteur ou un romancier très connu. Vous mettez jeu, ça va toujours passer, mais quelqu'un qui n'est pas connu, qui met jeu, à moins d'être... ça fonctionne pas bien, si vous voulez. Alors il y avait ça que j'ai fini par apprendre au bout des années d'écriture, surtout quand on vient sur le terrain du roman, du récit. Et puis, c'est vrai que je suis assez proustien aussi, c'est-à-dire que le narrateur n'est pas l'auteur, ou n'est pas que l'auteur, de même manière que l'auteur n'est pas que le narrateur. Il y a quand même une relative distinction, pour ne pas dire dissociation, sur lequel repose l'effet littéraire. L'effet F-A-I-T-S et l'effet E-F-E-T littéraire.
Oui.
C'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on décider que c'est vrai, que c'est pas vrai, qu'on est dans la fiction, qu'on est dans l'autofiction, dans l'autobiographie. C'est pour ça que Lacan, j'ai chopé cette phrase de Lacan qui m'est revenue de mémoire, je crois que c'est dans, je ne sais plus quel écrit, il dit, oui, on finit toujours par devenir un personnage de sa propre histoire. Moi, j'ai trouvé que c'était une formule extrêmement simple, limpide, de ce que c'est que la fin d'une analyse. Et effectivement, le roman familial, la traversée du fantasme, enfin, tout le trajet dans l'analyse, fait qu'on parle de soi, certes, à première personne, mais on parle de soi un peu comme d'un autre. Je est un autre, là, en l'occurrence, et on trace son histoire, on la refait, on la retraverse, on l'invente, on la fictionnalise. Et c'est pas pour ça que c'est moins réel. Au contraire, c'est peut-être par la fiction qu'on aborde vraiment le réel. On arrive à peut-être un peu à le démasquer, comme disait Serge Leclerc. On arrive un petit peu à le rendre vivable, écoutable, lisible. Donc, vous voyez, Proust, c'était ça. La recherche, je me suis longtemps couché de bonheur, il m'est arrivé ça, j'ai rencontré tous ces gens-là, mais on voit bien que l'auteur est aussi quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Proust, dans son célèbre, son petit bouquin, le seul essai qu'il a fait, qui s'appelle Contre Sainte-Beuve, qui était un célèbre critique littéraire du milieu du 19e siècle, Sainte-Beuve, critique classique, l'auteur se dépose dans ses lignes, dans ses œuvres. C'est presque le reflet. Hein. Il y a tout un courant de la psychocritique, d'auteurs aussi qui pensent ça, mais Proust dit non, et s'insurge contre ça, on fait même un petit bouquin pour rentrer dans le chou à Sainte-Beuve, et dit non, l'auteur n'est pas le narrateur. Il y a plusieurs moi, il y a plusieurs, enfin, il n'y avait pas encore de notion d'inconscient, quoique chez Proust, la notion d'inconscient est quasiment là, je crois même qu'il emploie le mot à plusieurs occurrences dans ces 3000 pages, hein. bien avant... bien après Freud, mais bon, quand même. Et donc, il dit non, c'est l'auteur, le narrateur et l'auteur, c'est pas la même chose. Parce que sinon, il n'y aurait plus d'espace littéraire, hein, comme dit Blanchot, il n'y aurait plus de romans, il n'y aurait plus de fiction. Alors, certes, au XXe siècle, depuis les années 70, on a inventé le terme d'autofiction, où le jeu est réinvesti.
Oui.
Avec le bouquin de Dubrovski, Fils, avec tous ces, Il y a une notion de pacte autobiographique, hein, un peu comme chez Duras, des tas de choses comme ça, comme chez Angot, enfin plein, plein. Mais on ne sait jamais jusqu'à quel point c'est vrai ou pas vrai, on ne sait jamais, parce qu'on est dans l'espace littéraire. L'amant de Duras, il y en a encore qui se tirent les cheveux, savoir s'il a vraiment existé ou pas. Mais en tout cas, il a existé, il est bien réel. Comme disait Duras, si je l'ai écrit, c'est que c'est vrai. Voilà. Réalité psychique, ouais. Retour à la psychanalyse.
Ouais.
Un souvenir reconstruit, reformulé, remémoré, à la même valeur, si ce n'est plus qu'un souvenir vrai. Enfin, là, on est dans le Freud, le béaba de Freud. Hein. Et moi, j'ai expérimenté ça dans ma longue analyse, dans mes longues analyses, et très vite dès le début. Mais donc, j'ai eu besoin de, néanmoins de noter quelques mots qui me venaient, y compris quand j'étais très jeune et que je savais à peine lire et écrire.
Ah oui.
Enfin, très jeune, à 19 ans, je veux dire, dans l'analyse. Ouais. Hein, j'ai lire et écrire, c'est au sens de même pensée.
Vous dites, dans le livre, il y a un moment où vous dites pourquoi est-ce que vous êtes allé en analyse, ouais. C'est le premier appel avec Jacques Lacan. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui fait que c'est à lui que vous vous êtes adressé?
Bah, écoutez, moi j'ai toujours été fasciné par les noms propres.
Ouais.
J'ai une théorie du nom propre, personnelle, ouais. Idiote, arbitraire. Il y a des romanciers que je lis, il y a des artistes que je vois en fonction de leur nom. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Duras m'a toujours fasciné, ce nom de Duras. M'a toujours fasciné et je n'ai pu la lire qu'extrêmement tard. J'avais pas 40 ans, mais pas loin. J'ai commencé à la lire au milieu des années 90. J'ai essayé pendant 20 ans, bon, j'y suis jamais arrivé. Je voulais commencer par Le ravissement de Wolfenstein, je me suis cassé les dents pendant 10 ans dessus. Et puis tout d'un coup, avec une énorme évidence, ça a marché impeccable, mais ce nom me fascinait. Lacan, ce nom me fascinait. Il y a des noms comme ça qui me fascinaient, qui me restaient en tête. Je ne sais pas d'où ça vient, mais pour revenir à Jacques Lacan, il a quand même théorisé, enfin, souvent parlé du nom propre. On a le nom qu'on mérite, le nom c'est du réel, enfin je paraphrase, hein, c'est pas tout à fait ça, mais des choses comme ça, qui étaient des théories quand même très, 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 très... Enfin, on entendait ça chez Barthes aussi, dans les mêmes années. Le nom propre est une épaisseur où tout fut de sens. Platon disait dans Cratyle, vous avez dû voir ça dans Gainsbourg, la vertu des noms propres est d'enseigner. Il y a toujours quelque chose derrière le nom.
Ouais. Ouais.
Quand Jean-Michel Ribette, qui était un analyste connu des années 60-70, celui qui a analysé par exemple des gens comme Orlan, l'artiste contemporaine, est en analyse chez Lacan, premier entretien, il va voir Lacan, Jean-Michel Ribette, il s'appelle, je ne sais pas s'il est toujours vivant, c'est un monsieur qui était un peu handicapé, Lacan lui dit, les bêtes qu'il y a dans votre nom ne vous font pas rire. Ribette. Mm. Il lui dit ça. Mm. Prof, ça y est, voilà.
Mm. C'est le nom de Lacan qui...
Ouais, Lacan. Ouais. Et puis c'était un nom extraordinaire, si vous voulez, parce que en 75, bon, j'avais 19 ans, bien que je venais d'un milieu très, très, très troglodyte, très, très inculte, et que j'ai eu des phases de scolarité extrêmement problématiques. Très vite, au lycée, une fois que j'ai réussi à rentrer au lycée, c'était pas gagné, je suis tombé dans la philosophie, et là j'ai rattrapé 10 ou 20 siècles de connaissances de la pensée dont je m'étais exclu les années auparavant, et le nom de Lacan m'est venu tout de suite en tête aussi. Et puis c'est vrai que dans les années 74, 75, Lacan c'était quelqu'un d'important. On était pas loin de 68, et pour que vous ayez un prof de philosophie ou un prof de lettres un peu structuraliste, un peu moderne, un peu branché sur Barthes, sur Foucault, sur Deleuze, sur Lacan, enfin c'était la French Theory, hein. C'était tout ça, donc voilà, c'était une émulsion, une émulation, enfin il y avait tous ces noms-là, et ce nom de Lacan était absolument extraordinaire, surtout qu'en province il y avait quand même une grande facilité, malgré la distance, bien qu'il y ait un train qui allait directement de Granville à Paris.
Ah oui, ça
vous savez. Oui, qui est une des plus belles lignes de France d'ailleurs.
Ouais.
Bon, c'est quand même extrêmement pratique. Donc, Lacan, oui, c'est. Oui, c'était extrêmement facile pour quelqu'un de province qui était relativement inculte d'aller directement voir quelqu'un de topissime. Parce que en province, on n'avait pas de préjugés. Intellectualiste. On n'avait pas d'effet de snobisme, on n'avait pas d'effet de cour, on n'avait pas d'effet de oh, le grand nom, l'inaccessibilité, l'aura, Moi, je connais beaucoup de gens, des proches, des amis, qui pendant longtemps, quand ils ont été voir leur analyste, ne savaient peut-être même pas vraiment pourquoi ils y allaient. Hein. Moi, je savais pourquoi j'y allais.
Ouais.
C'est-à-dire que j'avais quand même des maux AUX bien, bien réels, bien, bien embêtants. Et donc, dans ces cas-là, on n'hésite pas, si vous voulez. On n'hésite pas. Et vous prenez des fois le premier nom qui vous passe comme ça, qui s'imprime. Et pour peu que ce nom vous plaise pour des raisons alors qu'il serait peut-être encore à décrypter, ou à... vous foncez au culot, mais au culot, au sein culot.
Oui.
Et puis Lacan, quand vous l'appeliez, de toute façon, il y avait le nom dans le bottin. Vous savez, le bottin, à l'époque, c'était à la poste, vous aviez des grands bouquins énormes dans lesquels il y avait tous les numéros de téléphone par département de France. Vous trouviez Lacan, vous appeliez, ça répondait, ça ne répondait pas, le téléphone était posé par terre, dans son bureau. Ce qui fait qu'il y a des tas de gens, surtout des Américains, quand ils venaient, ils ne pouvaient pas supporter d'être chez Lacan parce que le bureau n'était pas plafond, c'était un entresol, le téléphone était posé par terre, les meubles brillaient pas spécialement de richesse. Les Américains, des fois, foutaient le camp tout de suite quand ils voyaient ça, ils ne pouvaient pas supporter. Mais c'était ça aussi, si vous voulez. C'était pas seulement les costumes ridicules, le nœud papillon, les cigares, le cirque, que le folklore, certainement. Mais bon, il y a... Donc voilà, pour moi c'était un nom emblématique, magique. Ouais.
Vous décrivez, moi ça m'a surpris aussi parce que je trouvais que ça allait à l'envers de ce qui peut être dit des fois sur Lacan. Quand vous dites comment il vous a laissé dérouler votre histoire dans les séances. Hein. Ouais,
lui, le grand snob, le grand intellectuel, en relation perpétuelle avec le monde entier, et ce qui se faisait de mieux, même les Vistros et tout. Enfin bon, bref, écoutez un comme ça qui raconte ses histoires de mobilette, ses histoires, comment il était perdu dans les bars de nuit, ou comment en même temps il s'en régalait, etc. Raconter ses histoires de BD, ses histoires de petites nanettes dans les boums, ses histoires de perdition. Bon, fallait bien. Lacan sentait bien qu'il y avait un monde vivant, au moins, même si c'était un monde de peu. Vous savez l'expression qu'on a, les gens de peu, les gens de rien, les gens sans importance. C'était même des types de films dans les années 50 ou 60.
Ouais.
Les films de Gilles Grangier, des choses comme ça, avec des vieux gabins, tout ça. Et donc, Lacan, qui a bien connu ce milieu-là, quand Lacan raconte ses anecdotes, qu'il était dans la barque avec Petit Jean, avec la boîte de conserve, là, et que Petit Jean, qui était un pêcheur rustre du coin, Lacan était jeune, et que Petit Jean, le pêcheur, il lui dit, bah, tu vois la boîte de conserve qui flotte sur l'eau. Toi, tu ne la vois pas, mais elle te regarde. Et que Lacan, à partir de là, a déjà l'intuition de l'objet regard, que quelque chose d'extérieur peut le regarder. Et il cite, je crois, dans le séminaire, cette histoire de Petit Jean en Bretagne, quand il est jeune, avec cette histoire de botte de conserve qui luit dans l'eau, comme ça. Ben, il savait ce que c'était que les gens de peu, de rien, et que les histoires, parce que quand elles sont racontées avec le poids du réel, elles sont toujours d'un énorme intérêt et d'un énorme... Je suppose que ça m'intéresse.
Oui. Parce que c'est pour ça que je trouvais que ça allait à l'envers de ce qui peut être dit de la séance très très courte aussi, même s'il y a peut-être dû en avoir,
mais
en lisant, de comment est-ce que vous avez pu avoir le temps de dérouler cette histoire-là.
Absolument.
Et qu'il ait laissé le temps à
finalement. Oui, oui. Bon, il y a eu quelques années quand même, et puis vous savez, il y a des histoires qui se ramassent en peu de choses, qui peuvent être dites l'espace de quelques dizaines de séances. Oui, moi je n'avais pas forcément grand chose à dire, puisque au fond les figures ancestrales ou parentales pour moi étaient des figures de disparition, d'inexistence, ou de secret familial. Donc il n'y avait pas grand chose à redire. Et comme moi je n'ai jamais eu beaucoup de goût pour me casser les dents sur des choses, sur l'imaginaire pur comme ça, qui se serait emballé, qui n'aurait abouti à rien. Vous savez, cette phrase de Sartre, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ah, celle que vous citez dans le livre.
Celle de 1952 à Jean Genet. Où Sartre écrit à Jean Genet, l'important. C'est pas ce que les autres ont fait de nous, c'est ce que nous faisons de ce que les autres ont fait de nous. Moi, j'y vois vraiment une définition de la psychanalyse. Parce que certes, on déroule son histoire. Donc ce que les autres ont fait de nous, en deux mots, quel objet, éventuellement quel sujet, on a été pour eux, dans leur désir et tout ça. Mais nous, une fois qu'on a dit ça, voir qu'on a traversé ça, voir qu'on a déposé l'objet ou qu'on l'a mis en forme, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et je trouve que... La relative insuffisance, difficulté de la psychanalyse, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait de tout ça.
Ouais.
Une fois que ça a été mis au jour. Ouais. Moi, je connais beaucoup de gens qui en sont aussi malheureux, si ce n'est plus. Ouais. Woody Allen, lui, il en rigole.
Oui.
Il dit, je suis malheureux, j'ai toujours une même douleur. Mais moi, je sais pourquoi. Bon, d'accord. Alors c'est pour ça que pour moi, c'est la littérature, elle vient non pas après, mais en parallèle au moins. Et elle permet d'aller peut-être un petit peu plus loin. Ce qui fait que même si j'ai un ou deux projets de bouquins en cours, je ne sais pas vraiment celui qui viendra après. Vous voyez? Tout comme des fois, un nom surgit du néant, ça peut être Lacan, ça peut être Duras, ça peut être Hergé, ça peut être des gens comme ça, ou Gainsbourg, qui vient nommer pour vous comme ça, alors que vous êtes dans le marasme de vos pulsions adolescentes légitimes, et puis un désordre du monde dont vous êtes autant effrayé que vous en jouissez, ben, Gainsbourg, il vient nommer tout ça. Voilà, c'est ça, le poète.
C'est comme vous écrivez, il parlait toujours comme un livre ou dans une chanson.
Voilà.
Ça vous venait libres, comme ça et qu'est-ce
les associations libres.
Ouais.
C'est vrai que, ouais. C'est vrai que le narrateur raconte comment il est arrivé très tôt dans le monde, de comment la chanson s'est imposée à lui, puisqu'il a vécu très tôt dans les bistrots avec le hit parade et puis les chansons à la mode d'Adamo, de Monti, de tous ces gens-là, de Salut les copains et tout ça. Donc quand vous entendez ça, vous passez des soirées dans ces bistrots-là, vous l'entendez quand vous avez 5 ans, 6 ans, 8 ans. Etc. Vous entendez à la barrière, vous entendez Ferra chante Aragon, que serait-ce Chantois, vous entendez Elle était trop belle pour moi, machin truc. Bon, évidemment, ça vient prénommer les choses, les mettre les qui vous traversent vous-même.
Est-ce que ça vous aidait à pouvoir dire certaines choses que vous auriez pu
manifestement
pas
oui,
dire
dans l'analyse, oui.
Ouais.
Dans l'analyse, oui. Le grand mérite des analystes, quand ils le peuvent, quand ils le savent le faire, c'est de pouvoir entendre et supporter ça. Parce qu'en général, les analystes sont intellectuellement bien au-dessus de tout ça, voient venir tout ça superbement, voire le méprisent, ce qui n'était pas le cas de Lacan. Ce qui n'était pas le cas des vrais analystes. J'ai approché souvent de près Serge Leclerc et Françoise Dolto.
Oui.
Qui pouvaient avoir ses quarts d'heure, mais ce n'était pas du tout des gens méprisants sur la culture populaire. Bon, puis moi j'ai toujours été culture populaire, ça tombe bien. Pas que, mais quand même beaucoup. Donc voilà, Bon, parce qu'il y a des gens, il y a des analystes qui savent que, de toute façon, culture populaire ou culture noble, intellectualiste et prout-prout et compagnie, on sait toujours en analyse que quand une référence culturelle, esthétique, arrive, ça vient pour enrober ou masquer un réel. Voilà, ça veut dire que le réel derrière la chose, das Ding, pour reprendre le terme de Lacan, derrière la chose esthétique, c'est d'ailleurs l'analyse qui fait de la sublimation dans le séminaire 7, vient toujours et nouer quelque part. Ouais. Donc ça, moi je trouve que l'analyse de la sublimation de l'œuvre d'art de Lacan dans le séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse, est absolument extraordinaire. Pour moi, c'est le plus beau des séminaires, si vous voulez.
Oui.
Et moi, éthiquement, théoriquement, je me suis toujours basé là-dessus. Petite œuvre, grande œuvre, qu'on parle de Gainsbourg, qu'on parle de Houellebecq, qu'on parle de Lacan, qu'on parle de Duras. Moi, je pense que l'effort de nouer le réel et de tracer son propre symptôme, de tracer sa propre limite, est tout aussi méritable chez une grande œuvre qu'une petite œuvre. Je déhiérarchise les œuvres, de même que les noms.
Oui.
Il y a quelque chose du réel qui m'émeut, qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup.
Il raconta à Lacan cette époque où il découvrit les chansons de Serge Gainsbourg, dont la voix et les paroles chantaient l'humanité des hommes, des femmes, de l'alcool, de l'amour et de la nuit sexuelle.
Est-ce que, alors déjà une première chose, c'est quelle place a cet artiste pour vous? Quelle place il a eu cet artiste dans votre vie?
Gainsbourg, c'est pas compliqué. J'ai commencé à écouter Gainsbourg, j'avais 12 ans. Donc en pleine effervescence pubertaire, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et à cette époque-là, moi je vivais dans un bar de nuit.
Oui.
Pas un nightclub, pour une boîte, hein, mais un nightclub, c'est-à-dire un bar de nuit. Qui marchait jusqu'à 3h du matin avec des gens, et c'était dans une ville qui était une cité balnéaire où il y avait beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens, il y avait des hippies, il y avait de la drogue, il y avait de l'alcool, il y avait quelques personnages, parfois hauts en couleur, parfois très ordinaires, et moi j'ai vu toutes ces jouissances, tout simplement. Alors comme j'en ai eu l'âge, en tant que fils de la maison, quand le narrateur en a eu l'âge, ben, il a pris la veste de barman, et puis il s'est mis à servir, à écouter tous ces gens-là. Mmh. C'était très humain, très... humain trop humain, comme dit Nietzsche, c'était vraiment l'humanité caracolante, souffrante, buvante, jouissant, s'effondrant. C'est un spectacle, le bar de nuit est un spectacle extraordinaire. Surtout dans les années 70. où effectivement c'était jouir sans entrave, il y avait un côté comme ça quand même. Ouais. Il n'y avait pas tellement de drogue, enfin en tout cas. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses comme ça, l'alcool,
Oui.
voire ce qui s'appelle boire. Mais en même temps, très, très, très festif, hein. C'est les Parisiens qui amenaient les premiers joints, qui amenaient ces premiers trucs-là, si vous voulez. La cocaïne n'était pas encore débarquée, en tout cas dans les petites villes. Donc, voilà, donc Gainsbourg, qu'est-ce que fait Gainsbourg? Dès 58, 57, il s'inscrit à la SACEM, il pond le Poinçonneur des Lilas, ensuite il y aura la Javanaise en 62 ou en 63. Ben, qu'est-ce qu'il chante Gainsbourg? Ben, c'est la nuit sexuelle, c'est-à-dire l'amour, qu'il appelle l'anamour, lui, les femmes, l'alcool, la femme des uns sous le corps des autres, c'est-à-dire l'adultère, intoxicated man, les hommes intoxiqués par leurs mots, comme on écrit comme on veut. Bon, puis l'alcool, la fumée, le tabac, enfin, tous les vices.
Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron de mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là comme un arbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room.
J'ai appris en lisant votre livre, donc vous avez écrit sur Serge Gainsbourg qui s'appelle La scène du fantasme, que ce nom, je ne savais pas, c'était le nom qu'avait utilisé Gainsbourg réécrit, qui avait été utilisé pendant la guerre par sa famille.
Alors, pour les faux papiers.
Pour les faux papiers.
Gainsbourg, qui est devenu Gainsbourg à partir de
1977-80,
quand Gene est parti et que là, il est tombé. Oui, au niveau de l'homophonie. Alors, vous voyez, quand Barthes dit que le nom est une épaisseur touffue de sens. Bon, ben, c'est vraiment ça chez Gainsbourg. Quand Cratyle, dans Platon, dit la vertu des noms propres est d'enseigner, voilà. Et quand Lacan dit que le nom propre, Miller avait développé ça au début de ses séminaires dans les années 80, que le nom propre, c'est un réel, c'est un indice réel du sujet, quelque chose de la jouissance vient à s'infiltrer, vient à se faire entendre. Bon, ou on la suppose, ou on la sent. Enfin, moi, j'ai toujours senti ça chez des gens comme Duras, Gainsbourg, et même Lacan, etc.
Oui. Et justement, je vous ai dit que moi, c'est un artiste que j'affectionne énormément.
Oui, je m'en dis ça,
c'est même avant l'adolescence, mais ça a été plutôt du côté d'une rencontre avec, les aphorismes et l'utilisation de la langue avec toute l'équivoque qui peut faire sur les mots et puis la poésie. Et je me demandais si, enfin, je sais pas ce que vous vous en diriez, mais le rapprochement avec Lacan, justement, du côté des aphorismes, il y avait quelque chose comme ça chez Gainsbourg.
Ah, j'avais jamais fait le.
Resserrer des phrases.
Enfin,
bon, il y en a plusieurs, hein, des aphorismes, mais.
Il y a des petits volumes des aphorismes.
Oui,
de
oui.
Il y a en deux tomes chez Folio, je crois qu'il y a un double aphorisme comme ça, ou un, je sais plus. Oui.
Moi, il y a quelque chose comme ça qui m'a accroché. Je me disais que chez Lacan, il pouvait y avoir
des
aussi,
formules.
On dirait, des punchlines, quoi.
Des formules qui
resserrent quelque chose.
Complètement, complètement. Ah oui, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que c'est pas effectivement le propre des grands hommes, c'est-à-dire ceux qui ont le génie de la langue, quelque part, de pouvoir effectivement, par des épiphanies, par des formules, par des aphorismes, par des jeux de mots, pas des jeux de mots, des vites, c'est-à-dire des choses comme ça qui transpercent le sens et qui en même temps, même avec un petit peu d'humour, mais avec beaucoup d'intelligence, viennent désigner quelque chose, effectivement, oui, absolument. Et puis cette liberté vis-à-vis de la langue.
Oui.
Parce que ce qu'avait Lacan, quand même, à moins des choses, c'est la liberté avec la langue, ce qu'il a appelé la langue, c'est-à-dire là où la jouissance vient infiltrer le son, le sens, le mot, le signifiant, etc., etc.
Lacan, il n'eut plus de doute là-dessus, tranchait davantage dans le vif que dans le mort, afin qu'il se réveille et que la part refoulée, maudite en bataille ou trop mortifiée en lui-même, commença à se détacher, tel un fruit pourri tombant enfin de sa branche.
C'est vrai que pour avoir fait deux analyses, parfois longues et très longues, en tout cas en partie essentielle de ma vie, et je ne suis pas le seul, parce que quand on parlait souvent effectivement entre amis, entre copains, et y compris entre patients des analyses, de nos analyses respectives, moi j'ai connu des gens qui, et moi-même j'ai éprouvé ça, où effectivement l'analyse ne marchait plus, ne fonctionne plus, on a l'impression que ça s'embourbe, qu'on est mort, ou que l'analyste est mort, on ne dit rien. Effectivement, il faut bien qu'il y ait un point de réveil. Il faut bien qu'il y ait un point de réveil, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vous permette, quand la pensée ou l'association tourne en rond, ou les associations tournent en rond, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Mais là, c'est un peu le travail ou le talent. Ou la provocation, c'est-à-dire au sens latin, provocare, voir s'il y a quelqu'un, tout ça, pour faire ça, oui. Et Lacan ne se gênait pas, était libre là-dessus. Était libre là-dessus.
Vous avez des souvenirs de moments où, quand on dit trancher dans le vif?
Écoutez, j'ai pris le bouquin depuis un moment, mais il y a un moment où le narrateur raconte, se plaint de quelque chose, alors je ne sais plus quoi. Il se plaint de quelque chose, et en fait, comme ça nous arrive certainement à tous dans nos petites faiblesses, que ce soit auprès de notre mari, de notre femme, de nos enfants ou de Tartampion, vous savez, des fois on peut se plaindre, et en fait, secrètement, si l'autre le sent bien, c'est pour qu'on vous dise le contraire. Ouais. On est tous quelque part un petit peu, parfois encore un petit peu des enfants, puis ça fait du bien, enfin bon, c'est très humain tout ça. Et Lacan dit alors le narrateur raconte ça, il se plaint de quelque chose à Lacan, et Lacan lui répond du tac au tac. C'est pas parce que vous le dites que c'est pas vrai.
Ouais, ça,
c'est-à-dire qu'au lieu de le plaindre, mais non, ou de rien dire du tout, c'est-à-dire il lui dit, mais presque, mais si vous le dites, c'est que c'est vrai, sous-entendu, dites-moi en plus. C'est-à-dire il le démet complètement de son. Il fait complètement chuter le désir, la petite demande de gratification narcissique, de reconnaissance, de réassurance, et tout ça. C'est-à-dire, mon vieux, remets-toi au boulot, et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que vous dites que c'est pas vrai. Donc, provoquerait la petite provocation. Donc, ça tient ou ça tient pas. Moi, je suppose que chez beaucoup de gens, ça doit être difficile ou ça doit pas tenir. Mais bon, chez un type comme ça, le narrateur, il a 20, 25 ans, là, qu'a traversé un peu des vertes et des pas mûres dans son enfance sur l'inconsistance de l'autre et le peu de valeur humanisée de certains êtres qui étaient pour lui en principe les plus proches, entendre ça, bon franchement il en avait vu d'autres. Hein. C'est comme quelqu'un à qui on demande de faire quelque chose alors qu'il a fait la guerre. Je déconne un peu, mais bon, il y a un côté un peu
oui, à la ça. Fois, il n'a pas pris la pente par rapport au narrateur limite, s'en occuper, en prendre bien soin. Et
voilà, il ne ménage pas. C'est pour ça que moi, en tant qu'auteur, j'ai rajouté la suite. Où là, c'est l'auteur qui apprend qui dépasse le narrateur et qui fait un petit commentaire en disant. Je ne sais plus exactement parce que j'ai plus ça en tête. Et il dit, ben oui, Lacan l'a complètement démis de sa plainte et lui a dit d'aller plus loin, de continuer. Et puis effectivement, c'est débouché sur autre chose, mais je ne sais plus quoi. Et donc, effectivement, une fois qu'il a eu déballé tout son truc, c'est reprendre vie que de prendre langue, en quelque sorte, et paroles. Et donc, effectivement, il en vient à lui poser la question du sexe. Le type, il a 20 ans, 22 ans, qu'est-ce que vous faites de cette question-là en tant qu'homme, en tant que jeune homme? Et puis celle dont vous m'aviez parlé un coup au début, qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Donc c'est là que la question sexuelle est donc vivante, parce que là, pour le coup, le sexe, ça fait trou dans le sens, dans la langue, dans trop de sens, dans les belles constructions, dans les beaux romans, les belles histoires, les belles chansons. D'ailleurs, Lacan disait « L'amour, c'est une chansonnette », je crois que c'est dans un de ses Minervins qui dit ça. Donc, ce que le narrateur n'avait que trop éprouvé, y compris avec Gainsbourg, etc., etc. Et donc, il lui dit, qu'est-ce que vous faites de votre vie, tout ce qui est en vieux français, l'organe mâle, chez Rabelais, chez tous les ottomans de la littérature, chez Pierre Louis, etc., enfin, y compris des célèbres. Donc là, il l'interroge, il fait effraction, parce qu'il sent certainement que son jeune patient peut le supporter là, quand même.
Ouais.
Il sentait bien quand même qu'un type qui a 22 ans, bon, même s'il est quand même abîmé ou qu'il est sous le coup d'une histoire, il a quand même, si ce n'est des besoins, des envies, des idées, des désirs, ou je ne sais pas quoi, dont il avait été un tout petit peu question, et qu'est-ce qu'il en fait de ça? Et ça, c'est quand même une question dans les analyses, parce qu'il y a des analyses où si vous ne mettez pas le ou la patiente devant, pas du tout l'injonction, pas du tout la nécessité, mais la question, pas au sens moyenâgeux, mais la question de mais qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que vous faites de votre sexualité? Qu'est-ce que vous faites de votre désir sexuel? Ça ne viendra pas. Donc il faut bien que ce soit l'analyste qui amène ça. C'est pour ça que je dis correctement mener. Oui, il faut bien qu'à un moment, l'analyste fasse passer sa patiente par cette question-là. Parce que le sexe, ça c'est quand même la grande leçon de Houellebecq, c'est quand même ce qui vivifie un sujet, c'est quand même ce qui lui donne le sentiment de la vie, pour reprendre cette magnifique expression de Lacan, qui est le sentiment de la vie. J'adore cette expression de Lacan. Je crois que c'est peut-être dans la direction de la cure, je ne sais plus d'où ça vient cette expression.
Oui.
Où il parle du sentiment de la vie, c'est une très belle expression poétique que j'aime beaucoup, que je trouve très 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 clinique. Ça vient aussi quelque part de l'assomption, pas seulement de la langue, mais aussi du sexe et de la sexualité, de ce qu'on en fait et de ce qu'on fait de ça. La leçon de Houellebecq, la fin d'extension d'une main de la lutte, c'est ça. Et puis presque toute l'œuvre de Houellebecq, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait du sexe, de la satisfaction sexuelle, de la frustration, et est-ce qu'on reste sous le coup de ça, ou est-ce qu'on prend vie avec, pas qu'avec ça, mais avec ça aussi, si vous voulez. Enfin, moi, j'entends surtout le Houellebecq là-dessus, la maladie du rapport sexuel. C'est comme ça que j'ai intitulé mes travaux longtemps. Donc, c'est ça, une analyse correctement menée. Donc, le patient, il faut qu'il assume. Il faut qu'il assume cette question, il faut qu'il assume. Quand l'analyste lui dit, mais qu'est-ce que vous faites de ça, ben, il est bien obligé d'avouer ce qu'il en fait ou ce qu'il n'en fait pas, ou quels sont ses problèmes, que ce soit la différente ou avec d'autres. Parce qu'effectivement, c'est un cas typique de ce que Freud appelait le désir obsessionnel, entre la dissociation entre le courant tendre et le courant sensuel, hein, que Freud examine dans La vie sexuelle, dans je ne sais plus quel article, hein, avec ce narrateur qui effectivement est capable d'avoir une vie amoureuse idéalisée, et puis à côté une vie sexuelle bon, dont il se tire comme il peut, mais qui pour le coup n'est plus du tout idéalisée, puisqu'il va voir les prostituées ou les putains qui se passent à sa portée, pour n'importe lesquels néanmoins, mais enfin quand même. Bon, voilà. Et c'était souvent le cas des jeunes gens dans les années 70, absolument. Il n'y avait pas du tout la même chose que maintenant.
Ouais.
Voilà. Donc, quand Lacan amène ça, bah oui, il faut passer par là.
Ouais.
Faut passer par là. Qu'est-ce qu'on fait de son sexe ou de cette poussée, hein, qu'on soit homme ou femme. Et moi, c'est vrai que pendant des décennies où j'exerçais l'analyse, il fallait bien que ça vienne à un moment ou à un autre, mais pas toujours, parce qu'on sent bien qu'il y a des sujets pour lesquels la question du sexe, faut mieux peut-être l'aborder ou la laisser de côté ou pas trop venir dedans. Comme dit Lacan, il y a des béances à ne couvrir qu'avec précaution, et on sent bien qu'avec certains sujets, qu'on peut dire psychotiques ou de structures délicates, y compris dans la névrose, il faut peut-être mieux pas trop amener la question de la satisfaction sexuelle ou la question de cette question-là comme ça. Mais ça mène autrement, parce qu'on voit bien que la suppléance, le symptôme, enfin toutes ces choses-là, c'est-à-dire un mode possible de satisfaction envisageable en lien avec autrui, va se poser à un moment ou à un autre, quel sujet va se reconnaître, va se nommer, et surtout va trouver une satisfaction, même relative, à se faire représenter, voilà. C'est une sublimation, satisfaction du sexuel, une dérivation, quelque chose comme ça.
Ouais.
Enfin, la question de la satisfaction générale, hein, c'est dans la chanson des Stones, hein, 62, I can't get no, virgule, satisfaction, je ne peux pas obtenir la jouissance ou la satisfaction.
I tried.
même à un moment vous vous installez comme analyste et en tant qu'analyste. J'ai bien aimé le moment où vous dites que vous n'avez pas demandé, enfin, vous n'avez même pas pensé à mon autorisation là où pouvait y avoir le fait d'être adoubé pour certains ou.
Oui, c'est très fréquent dans la communauté analytique, moi j'ai trouvé effectivement.
Ouais.
Bah, c'est-à-dire, le narrateur, si vous voulez, il n'a jamais demandé l'autorisation à personne. Il a toujours fait des choses comme il a pu, de son propre chef, y compris apprendre à lire, même si ça a été avec l'aide d'un grand-père, involontaire. Donc, effectivement, demander de s'installer comme analyste alors qu'il se sent en relative communauté avec la langue analytique qui devient sa langue, quelque part, comme la langue littéraire, et qui transparaît aussi à la façon dont je parle, vous le sentez bien, eh bien, quelque part, c'est l'évidence, il n'y a pas besoin d'une autorisation. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, parce que ça veut dire aussi faire des contrôles, faire des séminaires, se former, aller à la section clinique ou de droit ou de gauche dans les écoles, etc. etc. Mais oui, il n'y a pas besoin d'autorisation. Mais Lacan a toujours fait ça avec ses patients. Quand Rosine Lefort, vous avez peut-être entendu parler d'elle, Lefort, à la fin de la guerre, va voir Lacan, et elle est en analyse avec lui. Et elle lui dit, je ne sais plus si je tutoyais ou pas, hein, c'était au sortir de la guerre, c'était au tout début, tout ça. Je dis, ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'analyse et tout ça. Et je crois qu'Osine Lefort demande à Lacan presque l'autorisation. Et, idem comme Dolto. Il lui dit, mais tu fais déjà de l'analyse et tout ça, tu fais déjà de l'analyse de Dolto, c'est pareil. Mais tu sais bien aussi bien que moi ce qu'il en est. Ce qu'il en est, et Dolto n'a pas besoin d'autorisation non plus. Idem chez des gens comme Maud Manoni, enfin tout ces personnes qui s'autorisaient, peut-être parce qu'elles avaient connu la guerre ou les épreuves, ou cette liberté où il n'y avait pas cette hiérarchisation forcément, et ce besoin de reconnaissance échevelé, et ce poids des institutions, oui, effectivement, oui. Des gens, des pionniers qui y allaient. Donc le type, là, le jeune type, effectivement, il avait à peine terminé ses études. De psychologie, à 23 ans, pof, il ouvre son premier cabinet. Il ouvre son premier cabinet. Il faut un divan. Le culot total, mais l'inconscience totale. Hein. L'inconscience totale. Les premiers patients qui arrivent, un médecin généraliste, déjà, pof. Qui avait le double de son âge. Bon, ça fait drôle, hein, quand même. Hein. Donc là, effectivement, vite, la formation, vite, tout ça. Mais on voyait bien qu'il y avait quand même un élément de... certitude anticipée, pour reprendre un terme de Lacan, une notion d'évidence quand même, culottée, mais l'analyste ne disait pas le contraire, hein. Tout en n'ayant pas forcément cette nécessité absolue de devenir membre de cette école. Solers a dit ça à un moment, Solers a fait un bouquin sur Lacan il y a une petite vingtaine d'années, qui s'appelle Lacan même. Lacan même, etc. Et il dit, mais finalement, Lacan, je ne sais pas trop ce qui l'intéressait chez moi. Et puis si, je sais. C'est que Lacan voulait savoir comment un type comme moi, qui est en dehors de tous les sentiers battus, qui n'appartient vraiment, pas vraiment à une institution, ni à une communauté à proprement parler, peut s'en sortir. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être membre de quelque chose sans appartenir à un corps constitué. C'est l'expression que j'emploie dans le livre, là, en tant qu'auteur, pour le coup, pour faire le jeu de mots entre être membre, mais pas appartenir au corps constitué pour autant. Un truc un peu corps morcelé, comme ça. Comment est-ce qu'on peut être dans un truc sans y être? Ça, c'est la grande question, je trouve, de la liberté dans l'analyse et dans la vie. Ouais. D'où la question de la position tangentielle. On n'adhère pas, on touche, mais on n'est pas tout à fait dedans.
Donc, un désir tangentiel.
Oui. Ça touche, ça adhère, mais on n'est pas forcément dedans.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est pas l'homme libre de Lacan, c'est-à-dire le fou qui erre, les noms du père, qu'on ne sait pas où il est, tellement il erre, tout ça. Mais en même temps, il n'est pas dehors. Ça touche, ça adhère, mais voilà, c'est peut-être ça qui intéresse, ce genre de sujet qui intéressait Lacan. Voilà, quelqu'un en dehors des prises de pouvoir, des hiérarchies strictes, et qui en même temps font leur la langue héritée de Freud, la psychanalyse et l'évidence de ce que c'est que de faire une analyse que le patient fait de lui-même, hein, dont il a l'intuition depuis toujours.
Ce vivant sentiment d'enfin compter pour quelqu'un, sentiment qu'il découvrit et reconnut enfin en lui, et dont il ne put qu'en éprouver l'ampleur et la vie. La disponibilité et l'écoute de Lacan semblaient totales et de chaque instant. Elle lui donnait l'impression qu'il était et qu'il serait toujours là, avec lui et même pour lui, ce qui le rassura beaucoup.
Moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer un Lacan vivant, pour ne pas dire réel. J'ai voulu faire revivre Lacan. Bon, mais ça paraît mégalo comme truc. Mais quand on est dans une position littéraire, on peut se permettre. Moi, j'ai voulu rendre Lacan vivant. C'est pour ça que je suis sidéré qu'il y ait très peu de, à part quelques hommages, il y ait très peu de choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu intituler ça « Tombeau de Lacan ».
Oui.
Parce qu'en référence à Mallarmé, qui a fait qui lui a inauguré le concept de tombeau en poésie. Il a fait le tombeau de Charles Baudelaire, il a fait le tombeau de je ne sais plus qui, d'Edgar Poe, un grand poème de Mallarmé. Et puis dans une tradition littéraire, la notion de tombeau est rare, mais elle compte. Nancy Houston a fait un tombeau de Romain Gary, par exemple. Hein, donc cette notion de tombeau m'intéressait beaucoup. Je trouve que c'est tellement beau, tellement poétique, tellement dur comme terme. C'est pour ça que j'ai mis cette photo.
Oui.
Ou ce puits de lumière qui éclaire à peine son cabinet, son entresol. Plutôt très difficile à trouver, d'ailleurs. Il a fallu... plus pire que rusé dans cette photo-là. Et donc, je voulais que... Parce qu'à un tombeau, on peut rendre hommage et puis se souvenir de la vie qui a animé et que vous a donné cette personne. C'est quand même curieux que ce narrateur, lui, qui n'a pas de vie, vraiment, qui se demande s'il est vivant, il va voir Lacan. Lacan lui dit, mais pourquoi vous venez? Il lui dit, bah, je ne sais plus comment vivre et je ne sais plus comment dormir. On ne peut pas dire les choses plus simplement du réel qui lui tombe dessus. Voilà. Et Lacan lui dit, venez, venez le soir en plus. Bon. Donc, effectivement, Lacan est en train de quitter la vie quand même, des 75-76 ans, il quittait la vie. Ça commençait à être très fatigué, Et ce jeune type qui a un corps tout neuf, qui a 19 ans, vient le voir, il dit je suis mort, ou je ne sais pas comment vivre, comment m'animer, ou j'ai trouvé le sentiment de ma vie. Et Lacan lui passe, lui donne pas. Parce que donner, c'est comme l'amour, c'est ce qu'on n'a pas, c'est, il y a un truc comme ça. Mais il lui passe le sentiment de la vie, ou en tout cas le narrateur le prend. C'est ça moi, que j'ai trouvé, mais peut-être que je pouvais dire des choses comme ça que 45 ans après.
La psychanalyse fut le premier lieu où il eut vraiment l'impression qu'on l'écouta et le considéra. Il lui avait même semblé qu'il avait appris à parler en analyse. Un peu seul, mais il dut bien entendu en convenir beaucoup avec son analyste. Il dit que la psychanalyse était ainsi devenue sa langue, ce qui lui fit penser qu'elle était aussi devenue sa vie.
Et la psychanalyse, moi j'ai toujours trouvé, c'est bête, hein, mais je le dis, pendant très longtemps, j'ai eu des stagiaires au CNPP à Fougères, hein, dès l'âge de mes 25 ans jusqu'au bout, donc tous les ans il y avait un ou une stagiaire différente. On parlait souvent de psychanalyse, parce que c'était ma vie, c'était mon animation, et puis ça avait toujours, vous voyez bien, on me disait, mais la psychanalyse c'est compliqué ceci. Je dis oui, bien sûr, on peut voir ça compliqué, surtout si on décortique, si on étudie d'un point de vue du sens, du point de vue de la théorie, tout ça, bien sûr. Mais quelque part, il n'y a rien de plus simple que la psychanalyse. Parce que quand on dit suivre un patient, c'est exactement ce que dit Lacan dans l'hommage à Marguerite Duras. Le patient, l'artiste, il est devant. Quand on dit suivre un patient, ça veut dire qu'on se met un petit peu en retrait, un petit peu derrière, toujours la clinique du bord, un petit peu en retrait, un petit peu derrière, un petit peu au bord, qu'on accompagne. Bon, on évite qu'il y ait des dérapages ou des sorties de virage ou tomber dans le ravin, mais il suffit de suivre. Parce que l'inconscient, lui, travaille idéal. Il travaille tout seul, il dit, il parle, les pulsions. Elles finissent par se dire, bon, il faut aider, il faut mettre ça en langage, en séance, que ça soit vivable et non mortel, mortifère, ce que ne savent pas faire tous les analystes. Mais il suffit de suivre le mouvement. Donc voilà, c'est suivre un patient, je trouve cette expression magnifique, magnifique. Je ne pourrais pas donner plus simple indication... des jeunes praticiens me suivent, mais écoutez, tout est dans le mot. Vous évitez les sorties de route, vous accompagnez, vous resserrez, vous interprétez à l'occasion. Mais être là, écrire là comme on veut.
Ouais.
C'est-à-dire là, en présence, mais là, elle apostrophe petit a, est en semblant d'objet, ne pas être l'objet, est en semblant d'objet. Je trouve que toute la distinction, et quand on est en semblant d'objet, on ne peut pas s'y croire, puisqu'on est en semblant, en position de semblant. Et qu'en plus, on fait sortir un discours qui n'est pas que du semblant, mais qui touche au réel ou qui s'en approche. Moi, je trouve ça, bon, évidemment, j'ai un peu de recul, mais je trouve ça presque naturel.
Dans une cure psychanalytique, il y a des avancées et des rebours. De ces allées et retours difficiles à prévoir, et surtout à supporter entre les symptômes et les fantasmes, entre la réalité et le réel. Le mieux-être puis l'insupportable qui se dévoile, mais qu'il faut pourtant encaisser dans l'attente qu'il s'amenuise ou devienne simplement vivable, et afin que l'on puisse en quelque sorte faire avec. Faire sans, c'est à oublier.
Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la portée exacte, je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors ce récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires, de belle au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrader.